RFI 7h30 à Paris et Kinshasa 10h30 à Bakou.
RFI Matin.
Et tout de suite, le journal d'Arthur Ponchelet à la une, coup d'envoi de la COP29 en Azerbaïdjan.
Qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de ce rendez-vous? On y consacre une large partie de ce journal, alors que le monde est bien parti pour battre un nouveau record de température cette année. On verra aussi comment on tente de s'adapter aux conséquences de ces chaleurs extrêmes sur le continent. Vive émotion au Burkina Faso après la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes se présentant comme des volontaires pour la défense de la patrie en train de mutiler un cadavre. Un acte inqualifiable pour l'état-major général des armées qui annonce l'ouverture d'une enquête. Au sommaire également, nous irons au Mali où l'économiste Étienne Fakaba Sissoko comparaît devant la cour d'appel. Il avait été condamné en mai à 2 ans de prison pour atteinte au crédit de l'État.
Notre dossier du jour, Arthur, nous emmène au Sénégal où un ouvrage majeur du féminisme a été réédité.
La parole aux négresses de l'anthropologue sénégalaise Awa Thiam est une référence dans les universités américaines. Depuis sa réédition en juin, 700 exemplaires ont déjà été vendus au Sénégal.
C'est le rendez-vous annuel de l'ONU pour le climat. La COP29 s'ouvre aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan.
Et comme souvent dans ce genre de rendez-vous, il va aussi être question d'argent, avec un but, se mettre d'accord sur un nouvel objectif de financement pour les pays en développement. En 2009, il était de 100 milliards de dollars par an afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, une somme péniblement atteinte en 2022. Alors aujourd'hui, rehausser cet objectif est primordial, en particulier pour les pays africains. C'est ce qu'explique Tosim Panumpanu, le négociateur de la RDC lors de cette COP.
On veut que cet objectif ne soit plus un chiffre politique, un chiffre rond qui sonne bien aux oreilles, mais que ce soit véritablement un objectif qui soit en adéquation avec les besoins des pays en développement. Et donc le groupe africain, lui, estime qu'il faudrait en fait 1 000 à 1 300 milliards de dollars par an mobilisés pour pouvoir aider les pays en développement, les pays africains, pour qu'on puisse être en droite ligne avec les objectifs que nous fixe l'accord de Paris, à savoir la limitation de hausse de température à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Et donc, on ne parle plus de milliards de dollars, on ne parle plus de 100 milliards de dollars, mais on parle de milliers de milliards de dollars, en fait. Et nous espérons également, bien entendu, que ce financement, s'il est mobilisé, aura de meilleures modalités d'accès et de déboursement, parce que souvent, l'argent est là, mais on n'arrive pas à y accéder. On espère également que ce sera prioritairement du don, au lieu que ce soit des prêts qui soient onéreux.
Propos recueillis par Jeanne Richard. Et à l'occasion du lancement de la COP29, on se penche ce matin sur l'adaptation des pays africains au réchauffement climatique. Direction le Sénégal, où on parle d'agroécologie, comprenez à des pratiques où l'écologie est mise au service de la production agricole. La DITAES, la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, est devenue en 5 ans la principale plateforme sur le sujet. Gwendal Lavina.
Ces 80 membres sont des organisations de producteurs, des ONG ou encore des représentants de l'État sénégalais. Absam Bodj est coordinatrice du secrétariat de la DITAES et affirme que la population ne les a pas attendus pour se saisir du sujet.
La compréhension que les producteurs en général ont de l'agroécologie, c'est que ce n'est pas finalement quelque chose de nouveau. C'est une forme de pratique qu'ils ont toujours connue, donc on assimile ça à des connaissances endogènes.
Des pratiques qui vont du développement d'une autosuffisance en semences à une meilleure gestion de l'eau, mais un changement à grande échelle dans les exploitations familiales nécessite tout de même un accompagnement.
La plupart, c'est des producteurs de petites surfaces. Et donc, pour certains, d'être dans des alternatives, c'est prendre des risques. On parle de transition, mais comment est-ce qu'on assure à un producteur un mécanisme qui supporte ses potentielles pertes en début de transition?
Cela passe par des consultations et de nombreux échanges avec les exploitants. Raphaël Bellemin est agronome au CIRAD, l'un des partenaires de la DITAES.
On va d'abord diagnostiquer les problèmes agronomiques avec les populations. On va ensuite co-concevoir des innovations, de nouvelles manières de produire et les tester dans des petits réseaux expérimentaux. Et ça, ça nous permet de construire des connaissances et finalement d'initier des processus d'innovation et de diffusion des pratiques agroécologiques.
Dès les premiers mois de l'année prochaine, une nouvelle caravane partira à la rencontre des populations dans tout le pays pour continuer à recueillir leur avis et leurs attentes. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Et le réchauffement climatique, on y consacre aussi notre grand reportage du jour, direction le Tchad, à la rencontre des habitants habitants qui tentent de se protéger de la montée des eaux.
C'est à écouter sur notre application RFI Pure Radio. Au Burkina Faso, c'est une vidéo de 2 minutes qui suscite l'émotion.
Très partagée sur les réseaux sociaux, on y voit une dizaine de personnes se présentant comme des volontaires pour la défense de la patrie, découper un cadavre à la machette. Des images qui font réagir jusqu'à l'état-major général des armées. Un acte inqualifiable, déclare-t-il, avant d'annoncer l'ouverture d'une enquête. Il s'agira de déterminer l'authenticité et l'origine de la vidéo, afin, je cite, que les personnes concernées répondent de leurs actes si toutefois les faits sont avérés. Nadia Ben Mahfoud.
La tête et les membres supérieurs sont sectionnés et brandis comme un trophée. Le ventre est ouvert. Nous les avons battus, crie l'une des personnes en montrant du pied la tête coupée. Tout va finir cette année, que Dieu bénisse les VDP, lance un autre dans une ambiance de joie. Tous les intervenants sur la vidéo s'expriment en Dioula, l'une des langues officielles du pays, mais rien ne permet d'identifier le lieu, la date ou les auteurs de ces mutilations. Des activistes réfugiés en dehors du Burkina Faso dénoncent ces actes sur les réseaux sociaux. La vidéo est également partagée sur des groupes WhatsApp privés, mais les Burkinabés évitent depuis plusieurs mois de commenter tout fait impliquant des soldats ou des VDP de peur d'être accusés de démoralisation ou d'entrave à la lutte contre le terrorisme. Mais la vague d'émotion suscitée par cette vidéo a poussé l'état-major à réagir dimanche soir. Cet acte inqualifiable est contraire aux valeurs militaires et morales inculquées au personnel des forces armées nationales ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, fait savoir l'état-major dans un communiqué. Cela transgresse les règles d'engagement des unités sur le terrain, ajoute-t-il. Régulièrement accusé d'exécutions extrajudiciaires, l'armée burkinabé a toujours démenti, pointant parfois des groupes armés utilisant du matériel militaire.
Au Mali, c'est un début de semaine chargé qui s'annonce sur le plan judiciaire.
Avec 2 affaires emblématiques de la restriction de liberté civique dans le pays. Demain, la cour d'appel se prononcera sur la mise en liberté provisoire des 11 cadres politiques arrêtés en juin dernier. Mais d'abord, c'est l'économiste Étienne Fakaba Sissoko qui comparaît aujourd'hui. Condamné en mai à 2 ans de prison, dont un ferme pour atteinte au crédit de l'État, après avoir dénoncé la propagande du gouvernement de transition dans un livre, Étienne Fakaba Sissoko est jugé en appel ce lundi, David Bachet.
Étienne Fakaba Sissoko comparaîtra prisonnier, le parquet général ayant refusé sa mise en liberté provisoire. La cour d'appel s'y était pourtant montrée favorable le mois dernier. Sera-t-elle aussi compréhensive aujourd'hui sur le fond du dossier ? Étienne Fakaba Sissoko est incarcéré depuis 7 mois et demi. Sa défense dénonce une procédure politique. Le livre dans lequel l'enseignant-chercheur décrit la propagande du gouvernement est, selon Maître Ibrahim Marouf Sako, un travail universitaire, s'appuyant notamment sur des déclarations publiques. L'Organisation de défense des droits humains, Amnesty International, considère que la détention d'Étienne Fakaba Sissoko est arbitraire et que sa peine doit être révoquée. Demain, ce sera sur le cas des 11 anciens ministres et dirigeants de parti arrêtés en juin que se penchera la cour d'appel. Ces membres de la déclaration du 31 mars pour le retour à l'ordre constitutionnel sont poursuivis pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Ils s'étaient réunis en mars dans un domicile privé. À cette période, les autorités de transition avaient suspendu les activités politiques des partis et associations du Mali. La cour d'appel se prononcera demain sur leur demande de libération sous contrôle judiciaire, ordonnée par le juge d'instruction mais refusée par le procureur.
David Bachet, en Côte d'Ivoire, une enquête ouverte après la découverte de 2 fœtus dans une benne à ordures.
C'était hier à l'aube dans le quartier populaire d'Akouedo à Abidjan. Les 2 cadavres ont été retrouvés avec des déchets médicaux, des restes organiques mais aussi des documents liés à des hôpitaux publics. Un drame qui suscite la colère sur place. Reportage de Benoît Almeras.
Les 2 fœtus quasi momifiés sont posés sur une bâche noire étalée devant des tas d'ordures. Les agents de la police criminelle et de la section de recherche de la gendarmerie s'affairent autour d'ébène. Un attroupement s'est formé derrière le périmètre. Certains des badauds sont scandalisés.
Vraiment, ça fait mal au cœur. Mal au cœur.
C'est là où on nous a dit que non, ils sont venus déverser des enfants. Ça me fait mal quand j'ai entendu.
C'est écœurant. Très écœurant. Le fait même d'entendre, c'est écœurant. Ça fait mal.
Pendant ce temps, une fonctionnaire du ministère de la Santé fait l'inventaire. À côté des cadavres, il y a plusieurs centaines de seringues et de tubes de prélèvement biologique, ainsi que des restes anatomiques, des fibromes, des kystes, des hernies. Selon le procureur de la République d'Abidjan, des fiches estampillées des hôpitaux universitaires de Trècheville et Yopougon ont aussi été retrouvées. Pour Narcisse Kofi de la Coalition des syndicats de la santé, les normes de destruction des déchets biomédicaux n'ont pas été respectées.
Normalement, il y a des structures de gestion des déchets médicaux. Alors, si de tels cas se produisent, on verra certainement que ce sont des choses qui ont été faites dans la clandestinité.
Il y a 14 ans déjà, 2 bébés en décomposition avaient été retrouvés dans une décharge de ce même quartier d'Akouedo, là aussi au milieu de déchets médicaux. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
RFI 6h40 à Dakar. On termine ce journal par notre dossier consacré ce matin à un ouvrage majeur du féminisme sur le continent. La parole aux négresses a été réédité au Sénégal.
Ce livre de l'anthropologue sénégalaise Awa Thiam, pourtant devenu incontournable dans les facultés américaines, n'est toujours pas enseigné au Sénégal. Alors, la maison d'édition Saraba, qui réédite l'ouvrage, organise des rencontres littéraires dans plusieurs villes du pays. Léa Lisa Vesterhoff a suivi l'une d'entre elles à Dakar. Reportage.
Installée face à une vingtaine de femmes, Dei Fatou Kane, doctorante en sociologie, lit un extrait de la parole aux négresses. Dans l'audience, Fatoumata Diallo, ingénieure en finance, ne se remet pas du choc éprouvé à la lecture de l'ouvrage.
J'ai ressenti une actualité qui m'a surprise et j'ai regardé à nouveau la date où ce livre est sorti, fin des années 70, et en 2024, nous sommes encore en train de parler des mêmes sujets, des violences morales, physiques, économiques.
Publié en 78, Awa Thiam est la première africaine à oser faire état des problèmes qui gangrènent la vie de ses sœurs sénégalaises, guinéennes, maliennes et ivoiriennes. Pour la réalisatrice et militante Fatoua Rassemb, ces témoignages sont un outil précieux.
Parce que Awa Thiam a abordé tous les sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Ouais, on parle de dépigmentation, de la polygamie, de tous ces sujets-là. Et elle a visibilisé la parole des femmes pour nous faire entendre. Parce que quand tu es une femme et que tu parles de certains sujets, les gens vont vous dire soit tu es folle, ça se passe dans ta tête. On essaie de te dire que ce que tu dis là n'existe pas.
Est-ce la raison pour laquelle l'ouvrage a disparu des librairies francophones dans les années 80? Dei Fatou Kane, écrivaine et préfacière de l'ouvrage, confirme qu'il est toujours aussi difficile de porter le combat.
Parce que nous, féministes sénégalaises, sont toujours accusés de pervertir les sociétés, de travestir les valeurs et que le féminisme est une idéologie qui vient d'ailleurs. Donc ça remet le débat au centre sur notre perspective féministe sénégalaise.
L'objectif, qu'Awa Thiam soit un jour enseignée à l'université au Sénégal. En attendant, 2000 exemplaires de son livre ont été imprimés au Sénégal. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Et il n'y a pas qu'au Sénégal que ce livre se vend. La Côte d'Ivoire et le Togo ont chacun commandé une cinquantaine d'exemplaires de La parole aux négresses. Pour le directeur de Saraba Édition, Souleymane Gueyet, il fallait absolument rééditer l'ouvrage au Sénégal.
On est un peu une caisse de résonance et on découvre comme ça des titres qui appartiennent au patrimoine littéraire africain, qui sont très importants, mais qui malheureusement ne sont plus disponibles ici au Sénégal. Et donc l'idée est partie de là. C'est à lire pour les nouvelles générations, pour faire avancer les causes des femmes. Le premier mal qu'elle évoque, c'est la clitorectédomie. L'excision, voilà, qui se pratique encore, même s'il y a des avancées, on sait qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à faire dans ce domaine-là. Elle parle de la polygamie institutionnalisée. Donc en 2024, je pense que le sujet ne pouvait pas être plus sur la table par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal avec l'élection du nouveau président qui est polygame. Mais même au-delà de ce président, ce qu'on constate aussi à travers des discussions, à travers des témoignages, des émissions radio, c'est que dans les nouvelles générations, on aurait tendance à croire que la polygamie est de plus en plus délaissée. Mais non, il y a des femmes qui assument d'être polygames. Elles parlent de la dépigmentation. Donc en fait, que des sujets qui sont contemporains. Mais en 78, d'avoir déjà eu cette vision de parler de problèmes qui sont spécifiques aux femmes noires, aux femmes africaines, et que 46 ans après, l'ouvrage n'a pas pris une seule ride, quoi.
Le directeur de Saraba Édition, Souleymane Gueyet, au micro de Léa Lisa Vesterhoff, qui signe ce dossier à retrouver sur RFI.fr. Il est 6h43 en temps universel. Avant de refermer ce journal, un mot de Maurice, où le dépouillement a commencé pour les élections législatives. 770 000 bulletins de vote sont en train d'être comptabilisés pour renouveler l'Assemblée nationale. On votait ce dimanche pour élire 62 députés. Près de 77% des Mauriciens se sont déplacés pour départager l'alliance du peuple du Premier ministre sortant de l'alliance du changement de Navid Ramgoulam. Il est 6h43 en temps universel, une heure de plus à Paris. Et je vous laisse tout de suite avec Andréane Mellard pour la suite des RFI Matin.
Et merci Arthur Ponchelet, vous revenez dans une heure pour un nouveau journal.